Chapitre 93. À peine Vincent émerge-t-il de la margelle du puits derrière David, que Charles lui tend la main et l'aide à s'en extirper. « Dieu soit loué, vous revoilà enfin, je me suis fait un sang d'encre !» Le contre-coup de l'inquiétude pousse Addison à parler plus que d'ordinaire. « Regardez dans quel état vous êtes, vous ne répondiez même pas à nos appels, j'ai cru que j'allais être obligé de descendre moi-même vous chercher. » Qu'avez-vous fait durant tout ce temps ?
Cavell se rétablit sur le dallage. L'odeur de salpêtre brûlé plane encore. Il contemple la crypte qui a retrouvé sa quiétude. Débarrassé des traces de lutte et de ce léger voile clair qui recouvrait ses surfaces, elle paraît plus ciselée.
Charles continue sa logorée, mais Vincent n'y prête qu'une attention modérée. Il adresse un signe à David, qu'un cocher aide déjà à gravir l'escalier. Addison et lui se retrouvent seuls.
« Je l'ai trouvé, Charles. »
Addison interrompt son monologue, surpris d'être coupé de la sorte.
« Quoi donc ?»« Le sanctuaire. »
Frappé de stupeur, Charles se tait. Son corps tout entier est agité d'un soubresaut.
« Je n'ai pas réussi à pénétrer à l'intérieur, » précise Vincent, « mais je sais que c'est lui. » Un donjon monumental, souterrain, adossé contre la roche, une tour imprenable, sans aucun accès visible.
Charles reprend bruyamment sa respiration. Il plisse les yeux et scrute son complice. Au-delà de la révélation qui l'abasourdit, il sent que quelque chose a changé en Vincent. Il l'entend à sa voix, il le voit dans ses gestes. Cavell n'est plus exactement le même que lorsqu'il est descendu. Celui-ci désigne l'ensemble de la crypte d'un geste circulaire de l'index. Il est étonnamment calme et serein. Il comprend et dépasse désormais les apparences du décor qui l'entoure. Cavell finit par fixer son compagnon avec une intensité inédite.
Ces sarcophages ne contiennent aucun trésor, lâche-t-il. Ils abritent sans doute les gardiens du sanctuaire. Tout est clair à présent. Le dédale et le lieu enfoui que décrivait le témoignage, les pièges associés aux éléments qui ont failli nous détruire.
Un donjon souterrain ? Il est immense, majestueux, une perfection posée dans un écrin originel. S'il n'a pas la forme d'un temple, il en possède l'aura. Décrivez-le-moi davantage, je vous en prie.
Il y a peu à en dire, et sûrement tant à en espérer. C'est un édifice impénétrable, caché au fond d'une grotte enfouie dans les profondeurs, aussi imposant que s'il avait été construit à l'air libre. Il vous faudra venir le rencontrer vous-même.
Vincent parle avec une admiration respectueuse, presque comme d'une présence vivante, mystérieuse, qui le fascine et le dépasse à la fois.
Mais le temps presse, nous avons beaucoup à faire.
Vincent ramasse les feuillets et le crayon abandonnés par le théologien.
« Charles, si vous le voulez bien, je vais vous confier des messages que je vous demande de remettre de toute urgence à mes proches.
Qu'avez-vous en tête ?
Je vais avoir besoin de renforts. Du vôtre, de celui de mon équipe, de vos cochers et de bien d'autres encore.
Pourquoi ne pas l'expliquer vous-même à chacun ?
Parce que je vais rester ici. Parce que je vais redescendre. »
Charles s'insurge. « Il est hors de question de vous laisser seul. »
Il le faut. Je ne peux pas abandonner le sanctuaire. Vous viendrez m'y retrouver dès ce soir.
Le calme dont fait preuve Cavell contraste avec l'emportement de son aîné, comme si leur rôle s'était inversé.
Vous rendez-vous compte, proteste Charles, seul dans ce dédale souterrain que vous parvenez à peine à décrire. Je me refuse à ramasser votre cadavre lorsque vous aurez été massacré par je ne sais quelle machinerie démoniaque.
Cavell plonge son regard dans celui d'Addison.
« Il faut me faire confiance, Charles. Je vous en prie. Ne m'empêchez pas de rester. Je n'y arriverai pas si vous êtes contre moi. »
Vincent se détourne et fait quelques pas jusqu'à effleurer l'un des sarcophages. Baissant les paupières, il paraît y puiser une inspiration, une énergie, des réponses.
Tout ce que j'ai vécu trouve enfin sa place en moi. Chaque rencontre, chaque épreuve, chaque doute. Même si je ne sais rien de ce donjon, il est mon évidence.
Face à lui, les mystères que nous avons affrontés trouvent leur sens. Toute ma vie n'a servi qu'à faire de moi l'homme que je suis en cet instant, dans ce lieu que nous avons découvert ensemble. » Il prononce ces paroles d'une voix profonde. Chaque mot porte une conviction et une résolution que rien ne pourrait entamer. « Je n'ai plus peur, mon ami, » dit-il en se tournant de nouveau vers Charles. « Je sais, dorénavant, ce que je dois accomplir. Notre rencontre n'est pas le fruit du hasard. L'horloger qui nous anime a fini par nous amener là où nous devions être. » Charles esquisse un sourire.
« Vous souvenez-vous de ce que vous avez déclaré lors d'un de nos premiers échanges ? Vous m'avez dit « Je vous admire, Charles. » Pas uniquement pour tout ce que vous semblez savoir. Vous me fascinez par ce que vous croyez. J'envie votre espoir. J'aimerais tant le partager. Aujourd'hui, mot pour mot, je pourrais vous retourner ces propos.
Cet espoir, nous le partagerons, Charles. À mon tour de vous citer. Je compte sur votre aide pour parvenir à la complète résolution de ce mystère.
Au-delà de sa détermination, Addison perçoit chez Vincent une clairvoyance qu'il n'avait rencontrée jusque-là que chez son vieil ami disparu.
Écrivez, Vincent, soupire-t-il. Je serai votre messager.
Cavell s'assoit à même le sol, adossé à la margelle. Sans la moindre hésitation, il noircit quelques pages, expliquant à chacun ce qu'il doit préparer. Puis il plie chaque missive en y inscrivant le nom du destinataire et les remet à son complice. Enfin, les deux hommes remontent l'escalier, laissant la crypte retourner au silence et à l'obscurité dont ils l'ont tirée. Au seuil du mur pivotant, Charles pose la main sur l'épaule de son cadet. Il ne prononce pas un mot, mais leurs regards en disent long. Alors, Charles rejoint son siècle et Vincent repousse le mur derrière lui pour faire disparaître l'entrée. Pour Addison, c'est une journée trop remplie qui s'annonce. Pour Vincent, une nuit d'éternité.
Chapitre 94. Voici déjà le final du numéro qui s'annonce. Avec agilité, l'homme se hisse sur les épaules de son partenaire. Au milieu d'un public de connaisseurs, le porteur ajuste l'écartement de ses jambes pour assurer sa stabilité pendant que le voltigeur se dresse dans un équilibre impeccable. Ils sont prêts pour le clou du spectacle. Le voltigeur se concentre, puis fléchit les genoux pour se ramasser sur lui-même. Tout à coup, dans un formidable élan, il bondit tel un ressort et effectue un salto arrière irréprochable. Il retombe dans une position parfaite alors que le porteur encaisse la secousse sans broncher. L'assemblée applaudit de bon cœur. Ce tandem d'acrobates espagnols est aujourd'hui la vedette du camp où ils font halte pour la première fois. Après un salut et quelques accolades, les voilà admis dans cette fraternité informelle qui s'enrichit chaque jour de nouveaux talents. « Je propose que l'on boive à leur santé !» s'écrie le mime. La troupe approuve dans une clameur enthousiaste. Chopes, gobelets et verres se remplissent aussitôt de bière et de vin en leur honneur. Chacun trinque selon ses coutumes et commente dans sa langue. À l'écart, Gabriel et Pierre sont attablés l'un en face de l'autre, pour une fois insensibles à la réjouissante ambiance. Pierre achève de lire le message de son frère et relève les yeux vers la jeune femme inquiète. « Que dit-il » s'empresse-t-elle de demander. « Il fixe rendez-vous ce soir. Charles connaît l'endroit. »« Il va bien ?» Pierre est songeur. « J'ignore ce qu'il se passe. » Mais en lisant ces mots, j'ai l'impression de l'entendre quand une idée le taraude et qu'il ne veut plus perdre une minute. Il ne précise rien de la situation, mais insiste sur le fait qu'il faut nous préparer.
Nous préparer ?
Un peu de matériel, mais il parle aussi d'esprit.
Comprends-tu ce qu'il se trame ?
Absolument pas. Il écrit que nous allons tenter de découvrir un passage conduisant dans un lieu comme nul n'en a jamais vu. Un dresseur de chiens fait sauter son animal sur le banc tout près d'eux. Assis côte à côte, maître et bête partagent la même gamelle avec un appétit identique. Le couple ne les remarque même pas. Sa lettre parle aussi de toi, reprend Pierre.
Qu'attend-il de moi ?
Que tu restes à l'abri, pour le moment. Un fiacre te conduira chez la comtesse de Vignolles, où tu demeureras sous la protection de Stasio en attendant mon retour.
Gabriel est déçu.
Il dit que tu seras utile très bientôt, ajoute Pierre. Il utilise même le mot « indispensable ».
Pierre n'a pas vu arriver Conrad. Le grand barbu tient lui aussi à la main un message de Vincent.
Il ne s'assoit pas et lance sans détour. Ça m'a l'air grave. C'est un véritable plan de bataille que nous devons mettre sur pied d'ici cette nuit.
Le menuisier désigne au loin sur le coteau Addison et Victor, le gardien des ambassades, en grande conversation près des roulottes.
Charles, d'habitude si digne et mesuré, multiplie d'amples gestes pour appuyer ses propos.
« Je n'ai pas entendu grand-chose, commente l'Allemand, mais apparemment il est question d'embarquer toute la troupe. »
« Les saltimbanques ?»«
Comme je te le dis. »
Pierre pointe le feuillet de son complice.
« Et de toi, que veut-il ? »
« C'est à n'y rien comprendre. Il me demande de préparer de quoi étayer un tunnel. Il a même fait un croquis avec des mesures qu'il qualifie lui-même d'approximatives. Il faut que d'ici quelques heures, je me sois procuré des madriers particulièrement solides. Il précise que mes renforts devront être assez costauds pour résister à une explosion. Tu te rends compte ? »
Fichtre. Je ne sais pas ce que fomente Vincent. J'espère qu'il ne va pas nous embarquer dans un attentat.
Et quand bien même, connaissant ton frère, il agirait pour de bonnes raisons. Aussi bizarre que soient ses instructions, nous devons nous plier à ce qu'il demande en lui faisant confiance.
Pierre acquiesce. Conrad brandit son message.
Il écrit que nous n'aurons droit qu'à une unique chance et que ce sera sans doute l'opération la plus importante de notre vie.
Il désigne à nouveau les roulottes. On y aperçoit Henri, recroquevillé par terre au pied de la sienne, les bras enroulés autour de ses genoux.
« Tu devrais monter voir le clou. Il n'est pas bien. J'ai l'impression qu'il est vexé que Vincent ne lui ait pas écrit. Je n'ai pas réussi à le consoler. »
Pierre se lève aussitôt. « Ça tombe bien. Il faut que je lui parle. » Conrad le regarde s'éloigner, imité par Gabriel, qui se demande elle aussi quel rôle va bien pouvoir jouer la bande dissipée qui n'en finit pas de boire et de chanter autour d'eux.
Chapitre 95. Voyant Pierre approcher, Henri s'empresse de s'essuyer les yeux. Tandis que son aîné escalade le talus, il essaie de reprendre contenance.
« Pourquoi restes-tu dans ton coin comme ça ?»
Le clou renifle. « Ce qui se prépare ne me concerne pas. Je suis le gamin, celui que l'on ne veut pas avoir dans les jambes. »
Pierre s'assoit auprès de lui, face au camp dont on commence déjà à allumer les lampions.
Cette soirée s'annonce importante, Henri. Vincent m'a même écrit qu'elle serait historique. Jamais il n'avait employé ce mot auparavant, pour aucun de nos projets.
Il ne m'a rien écrit à moi,
interrompt amèrement le garçon.
C'est pour ça que tu te mets dans cet état-là ?
Je ne crois pas que cela mérite tes pleurs.
Henri se tourne pour faire face à Pierre.
As-tu déjà lu L'île mystérieuse ?
Non, mais je t'ai souvent vu plonger dedans.
Je l'ai encore relu ces derniers jours. Sais-tu pourquoi je l'aime tant ?
Parce qu'il est captivant ?
Parce que c'est l'histoire d'une équipe, soudée comme une vraie famille, qui se lance dans des aventures. Cela me fait penser à nous. Et puis, il y a le capitaine Nemo, un homme très intelligent, qui, grâce à son imagination, a inventé des machines dont personne n'avait eu l'idée avant lui.
Je suppose que ce capitaine te rappelle Vincent. Ils se ressemblent en effet. Pourtant, je me demande de plus en plus pourquoi j'aime tellement ce roman. Car au fond, il est très triste.
Triste ?
Le capitaine Nemo est finalement un homme seul. Et son destin tragique me fait beaucoup de peine. Sais-tu ce qu'il dit alors qu'il rend son dernier souffle auprès de ses nouveaux amis ?
Donc, il succombe.
En disant « Je meurs d'avoir cru que l'on pouvait vivre seul ».
Quel rapport avec Vincent ?
N'est-il pas seul, lui aussi ? Crois-tu qu'il tienne à nous autant que nous tenons à lui ?
Pierre dévisage son jeune voisin.
As-tu le moindre doute ? Ne vois-tu pas à quel point il se démène pour nous ? Pour toi en particulier ? Alors pourquoi ne me fait-il pas confiance ?
s'écrie le clou. « Pourquoi ne m'a-t-il pas écrit à moi ?»
Pierre lui tend la missive que lui a adressée son frère. « Tiens, regarde directement à la fin, ça te concerne. » Fébrile, Henri parcourt les dernières lignes. « PS, n'oublie pas de demander à Henri de venir ce soir, nous aurons grand besoin de son esprit d'observation. » Le visage du garçon s'éclaire.
« Tu vois, commande Pierre, dans notre histoire, le capitaine ne meurt pas tout seul. Nous aurons le privilège de crever avec lui. »
Henri éclate de rire. « D'autre part, lui glisse Pierre, si je peux me permettre un conseil, tu devrais lire les trois mousquetaires. Tu ne te sentiras pas écarté de l'équipe qu'ils forment, car, en dépit du titre, ils sont quatre. »
Les deux compères n'ont guère le temps de goûter à la plaisanterie, car la haute silhouette de Charles s'impose devant eux. Son air grave ramène instantanément le sérieux.
« Messieurs, pardonnez cette interruption, mais Victor et moi sollicitons votre aide. »
Pierre se lève déjà.
« Vous, qui êtes habitués à résoudre des énigmes en usant de solutions inattendues, vous pourrez peut-être nous tirer de notre embarras. »
Pierre et Henri sont tout ouïes.
« Notre problème est le suivant. Dans quelques heures, à la nuit tombée, nous retrouverons Vincent dans un lieu dont la localisation doit absolument rester secrète. Or, nous avons eu l'occasion d'apprendre à nos dépens que ceux qui ont essayé de vous tuer ont des yeux et des oreilles partout. Cette bande a des espions à qui nos déplacements risquent de ne pas échapper. Pour les déborder, Vincent a eu l'idée d'organiser une vaste diversion à travers la ville, un chahut qui devrait nous permettre de nous faufiler sans attirer l'attention.
C'est donc pour cela qu'il compte sur la troupe de saltimbanque.
Exactement. Mais pour être efficace, leur action a besoin d'être coordonnée avec une telle précision que quelques montres ne suffiront pas à la régler.
Victor intervient.
Nous cherchons donc le moyen d'envoyer un signal qui marquera le début de l'opération. Le mieux que nous ayons trouvé pour le moment, c'est un coup de canon. Mais nous ne savons même pas s'il en existe un qui soit assez puissant pour s'entendre dans tout Paris.
Addison se désole.
Impossible. Autant dire que nous n'avons rien alors que l'heure avance, conclut Victor, dépité.
Pierre réfléchit. Tout à coup, le visage d'Henri s'illumine.
Je sais comment faire, j'ai la solution.
Chapitre 96. C'est une étrange armée qui prend le chemin de la capitale dans le couchant. Une longue procession d'équipages disparates et de cavaliers aux montures variées. Les charrettes débordent de femmes et d'hommes aux tenues chamarrées. Les ombres de cette drôle de colonne mouvante s'étirent dans les derniers rayons du soleil. Des danseuses ensorcelantes constitueront des escouades. Des jongleurs, des cracheurs de feu et des bonimenteurs formeront des bataillons. Les montreurs d'ours et les pierrots se feront fantassins. Tous, et bien d'autres encore, vont donner ce soir leur plus grand spectacle. Chacun est déjà dans son personnage, concentré. Sur le plateau d'un chariot brinque-ballant, une chanteuse et un baryton se chauffent la voix en chœur, pendant qu'un avaleur de sabres et un briseur de chaînes se bouchent les oreilles. Dans le ciel, les nuages sombres aux contours rebondis étouffent déjà le peu qui subsistait du jour. On ne voit ce genre de firmament que sur l'étoile de maître, représentant de grands drames ou de sanglantes batailles. Une soirée qui s'annonce sous des cieux aussi torturés ne peut pas être banale. Il flotte dans l'air un parfum d'orage et de danger. Lorsque les saltimbanques ont appris que la vie des réfugiés qu'ils côtoyaient depuis quelque temps était en jeu, pas un n'a refusé de participer. Chacun s'est vu affecté à un secteur, un emplacement stratégique. Ils ne vont pas se produire aux heures ordinaires et, contrairement à l'habitude, ils n'auront pas à éviter les gendarmes ou les bien-pensants. Ils ont au contraire pour mission d'attirer l'attention coûte que coûte, de former de multiples attroupements afin que les sbires de l'aube sacrée qui pourraient surveiller les sites stratégiques se retrouvent aveuglés. Ensemble, ils vont animer Paris et faire finalement d'une autre façon et pour une autre raison ce qu'ils font chaque jour, distraire. Conrad a quitté le campement plus tôt pour réunir les matériaux et les outils dont il aura besoin. Charles a également pris les devants pour tenter de se procurer des explosifs et coordonner les cochers.
Ce soir, pour la première fois, tous seront de sortie. Pierre a achevé de prendre conscience de l'importance de ce qui allait se jouer lorsqu'un fiacre est venu chercher Gabriel pour la conduire chez la comtesse. Pas une fois, ils ne s'étaient séparés depuis leur rencontre. Alors que la jeune femme sautait sur le marchepied, il a saisi sa main pour la retenir un instant. L'attirant vers lui, il l'a serrée dans ses bras. Ils se sont embrassés. Gabriel lui a murmuré « Je t'aime ». Elle ne l'avait jamais fait. Pierre est resté au milieu du chemin jusqu'à ce que l'attelage disparaisse. Alors, il a compris que le temps était venu de prouver que pour elle, il aurait le courage de tout affronter.